7h17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, dans la presse, on nous apprend ce matin, aux surprises, que les travaux de rénovation, de construction de paddock pour le Grand Prix de Formule 1 vont coûter plus cher que prévu.
Hey Paul, tu sais, quand tu fais venir un entrepreneur chez vous, le monde te dit tout le temps, garde-toi un 30% de marge de manœuvre parce que, tu sais, il peut y avoir des dépassements de coûts. Mais on était proche de 60, tu sais, parce que nous, au gouvernement, on aime ça, tu sais, un bel écart majeur. Il y a deux façons là-dedans de voir ça. Soit qu'on a minimisé les coûts au départ pour minimiser l'impact que ça peut avoir de l'air au niveau des relations publiques, soit qu'on a surévalué les travaux maintenant, ou qu'il y a incompétence d'un bord ou de l'autre. Il y a quelqu'un quelque part, tu sais, dans une marge aussi grande qui fait une erreur. Et en 2014, je remontais dans mes archives, le 13 juin 2014, je disais dans un article, les retombées économiques, là, c'est comment c'est calculé, c'est quoi, qui en profite vraiment. Parce que là, quand on augmente de 60% l'investissement collectif, ton rendement sur retombée économique par rapport au risque, il est plus vraiment là.
Et parce qu'en point, plus, là, t'as pas le choix de le faire. Tu comprends, t'es lié par contrat.
T'as signé.
Et non seulement t'as signé, mais faut que tu commences les travaux là tout de suite après le Grand Prix de cette année.
En plus, tu sais, t'as un groupe que t'as subventionné. Octane, t'es subventionné, ils t'ont présenté un plan d'affaires. Mais est-ce que leurs états financiers sont complets? Là, je te donne un exemple, Paul. Là, j'accuse pas Octane, je te donne un exemple fictif, Paul. Mettons que t'as un groupe que tu présentes tes états financiers, tu présentes les subventions dont t'as besoin, puis l'investissement collectif que t'as besoin de nationaliser. De l'autre côté, t'as une compagnie, je sais pas moi, au hasard, je sais pas moi, de blocs de béton sur le circuit Gilles Villeneuve, mettons. T'es laissé là à l'année, puis t'es loué à Octane qui, eux, les met dans leur coût de production. Tu sais, implicitement, là, quand t'as des blocs, une compagnie de béton, mettons, mais que c'est la même, mettons, qui possède un autre groupe, puis qui est loué à une à l'autre, tu sais, faut être capable de voir qu'il faut avoir un état financier de toutes les sociétés associées pour voir quel est le profit réel d'un promoteur, par exemple. Je sais qu'ici, on a eu des problèmes financiers, qu'on a eu de la misère à payer dans les années passées, qu'on a eu des problèmes avec les commanditaires, mais en tant que société, puis là, on élargit le débat, quand on subventionne un événement de même, faut s'assurer que, au niveau des constructeurs, des sociétés associées, que tout le monde paie sa juste part et qu'on nous présente pas des chiffres qui sont sous-évalués ou surévalués. Ici, clairement, il y a quelqu'un quelque part
qui a manqué à la cible.
Tiens, on va se graisser, là. T'sais, ou quelque part, ça marche pas. Je dis pas que personne se graisse, Paul. Je le dis pas. Je dis juste que 60% d'écart, il y a quelqu'un quelque part qui a mal agi.
Bien là, peut-être que c'est au tour de la ville de revoir à la baisse ce qu'on veut faire.
C'est ça, tu sais, peut-être au lieu de mettre des vitres, on peut mettre du plexiglas. Non, je blague, mais tu sais, des fois, non, c'est juste que des fois, on veut tellement se payer des événements internationaux, des équipes de hockey, tout ça, qu'on oublie qu'au bout du compte, tu sais, la taxe municipale puis les impôts des particuliers, bien c'est ça qui paye. T'sais. Est-ce qu'on veut vraiment ça?
Finances personnelles, deux réflexions ce matin.
Oui, la première, c'est valeur comptable versus valeur de l'action en bourse. Je te donne l'exemple de la Banque Laurentienne. J'ai un ami, Paul-Antoine, qui m'écrit en fin de semaine, il dit « Pierre, va regarder la valeur en bourse de la Banque Laurentienne. » Là, je vais voir ça. 48$, tu sais. Je m'en vais voir l'action 48 et 41, tu sais. Je m'en vais voir l'action en valeur comptable au 31 janvier, 52$. Là, expliquer aux gens, là, c'est que la valeur comptable, c'est la valeur défensive. C'est la valeur de dire, la valeur prudente, tu sais, c'est l'actif moins passif. Puis une banque, là, veut pas, c'est du cash maintenant. Les banques ne possèdent plus d'immobilier. Elles ont liquidé leurs actifs immobiliers. Elles louent leurs locaux. Quand vous voyez une banque au coin de la rue, probablement c'est un local loué. Donc, c'est du cash à recevoir, donc des prêts, puis du cash à payer, du financement, puis oui, tu as des actionnaires. Et là, tu te retrouves avec le marché qui dit à la Banque Laurentienne, « Hey, vous autres, là, on vous évalue à 48,41 $ pendant que votre valeur comptable est à 52. » Donc, le marché dévalue la banque quasiment en bas d'une valeur de liquidation comptable. C'est pas liquidation parce qu'il y a des frais d'liquidation. Mais le risque de l'investisseur dans ce cas-là est soit faible, soit le marché voit quelque chose venir que les gens ne vont pas venir. Soit le marché se dit « Hey, il y a quelque chose qui s'en vient » parce que nous, on trouve que la valeur comptable, elle est quasiment surévaluée. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, un investisseur peut se demander…
Pour garder quoi, nous autres?
Ben nous autres, il faut regarder de dire « Est-ce que la valeur au marché, là, Paul, est plus petite que la valeur comptable? » Donc, le marché te dit « Ça vaut moins cher que la valeur comptable. » Soit que c'est une opportunité d'investissement vraiment intéressante, ou ben donc, qu'il y a une dévaluation potentielle qui s'en vient.
Okay.
L'autre point que je vais te parler rapidement, c'est le CELI REER versus l'immobilier. Et dans le National Post, on parle de ça un peu ce matin, mais ça m'intéresse, t'sais. Quand tu es un propriétaire immobilier présentement, que les prix sont très élevés, que les taux d'intérêt sont élevés, et puis là, tu te dis, bon, j'ai 50 ans, 48 ans. Tu regardes ton immeuble, combien il me reste à investir? C'est quoi mon risque? Est-ce que mes locataires me payent? Est-ce que je devrais pas commencer à prendre mes actifs immobiliers et en mettre un peu dans le CELI et en mettre un peu dans le réel, c'est-à-dire de vendre des immeubles. Parce que, dans le fond, ton gain, il est peut-être maximisé présentement. Deuxièmement, quand tu vas mettre de l'argent dans ton CELI, tu vas pouvoir sortir ça de ton CELI à la retraite sans impôt. Parce que, évidemment, une fois que tu l'as mis dans ton CELI, une fois qu'il a déjà été imposé, à la retraite, tu vas pouvoir moduler tes revenus de retraite en fonction de ce que tu veux et non pas en fonction de « si je retire du placement, je vais payer de l'impôt ». Et autre point, tu te dis, si tu as un REER qui n'est pas optimisé à 48-50 ans, tu peux te dire « peut-être que vendre mon immeuble, je peux avoir un remboursement d'impôt, le réinvestir et faire de l'argent ». Donc, la question à sous-entendre ici, c'est « est-ce que je vais investir dans mes placements et retirer de l'immobilier pour profiter des avantages fiscaux du CELI et du REER ?» Où je vais garder mon immeuble. Et ça, tout dépend du taux d'endettement, de la valeur de l'immeuble, comment l'immeuble s'est déprécié, comment il faut rénover l'immeuble, la qualité des locataires, de l'entretien que ça te demande. Mais le seul message qu'on peut lancer ce matin, c'est réfléchissez aujourd'hui à est-ce que je veux rester propriétaire immobilier et est-ce que mon CELI est plein, est-ce que mon REER est plein? Il y a peut-être un conseil financier à regarder avec son conseiller financier.
Merci. Salut. Réflexion fiscale du jour, comme on dit, de placement. 7h23.